point qu'on va aller thank you very much, Alter. Il y a beaucoup de choses qui se produisent en ce moment un peu partout à travers la planète. Je vais vous avouer franchement, Claude Reichmann peut peut-être nous égayer, peut peut-être nous amener un son de cloche qui est différent de ce que la presse en général, de ce que les journalistes en général peuvent nous apporter. À l'instant, on va aller se connecter auprès de lui et on va lui poser la question. Et c'est simple comme bonjour. Monsieur Reichmann, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour. Vous m'entendez?
Très bien. Super même.
Parfait. Eh bien, écoutez, je vais bien. Il fait un petit peu plus froid que d'habitude, mais nous sommes très modestes par rapport à la température québécoise.
Oui, c'est ce que je... c'est ce que j'allais vous dire.
nous sommes autour de zéro et peut-être même un peu en dessous. Et vous-même, vous êtes à combien?
Présentement, on se situe à moins un. On doit... Et par contre, il y a de la neige. Il y a beaucoup de neige.
Alors oui, il ne fait pas plus froid chez vous, donc nous sommes enfin sur un pied d'égalité.
Exactement, pour une des rares fois.
Voilà.
Monsieur Reichmann, je peux pas... enfin, je vais débuter par ce qui touche tout le monde aujourd'hui, enfin, le monde. Ce qui a retenu l'attention, c'est cette histoire à Bombay de groupes islamistes. Je sais pas si vous avez peut-être quelques cartes dans votre jeu qu'on n'a pas ici de notre côté, parce que, bon, on nous dit qu'il y a eu, bon, attentats, terroristes, blablabla, bref... ces groupes islamiques ont-ils revendiqué quelque chose, M. Reichmann?
Apparemment, ils n'ont pas revendiqué beaucoup, mais il y a eu des revendications. Je ne sais pas si elles ont été authentifiées. Je ne crois pas pour l'instant. Enfin, ce qu'ils réclamaient, d'après ce qu'on dit les dépêches, c'est la libération de tous les islamistes emprisonnés en Inde, ce qui évidemment signerait à ce moment-là la qualification d'islamiste qu'on pourrait donner à ces terroristes.
Oui.
Mais pour les autorités indiennes et pour d'ailleurs l'ensemble des observateurs, il ne fait pas de doute qu'il s'agit bien d'attentats islamistes.
Et vous, comment percevez-vous ça, vous qui êtes en France? J'imagine que ça doit quand même allumer une lumière en vous disant, bon sang, je pense que si ça peut réveiller davantage les gens sur les fondements de l'islam, je sais pas si c'est ça qui vous est passé par la tête, mais moi de mon côté, j'avais vraiment, oh mon Dieu, encore une preuve comme de quoi que il y a quelque chose de malsain qui découle de cette religion là.
Écoutez, c'est la conclusion qu'on est obligé.
Sans bien sûr généraliser, M. Reichmann.
Non, il n'est pas question de généraliser, mais il faut quand même reconnaître que ceux qui disaient que c'est l'islam qui fournit le terreau de l'islamisme n'avaient pas forcément tort, puisqu'il est quand même difficile de trouver l'équivalent dans d'autres religions de dérives aussi violentes, aussi sauvages même, pourrait-on dire. Alors, je ne sais pas s'il faut incriminer l'islam lui-même ou ses dérives, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons un véritable problème qui d'ailleurs ne se situe pas tellement au niveau de la qualification qu'on peut donner à l'islam. Je crois que c'est surtout au niveau du soutien que ces actes ont ou n'ont pas dans la communauté islamique. Parce que, ou musulmane même, quand il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis, on a observé dans beaucoup de pays du monde que de nombreux musulmans se réjouissaient. Alors, on nous dit dans le même temps, musulmans modérés, ce dont je ne doute pas un instant, mais ce qui serait bien, voyez-vous, c'est que les musulmans modérés condamnent les actions violentes, les attentats, le terrorisme. Voilà, c'est ça qu'on peut attendre de nous. Nous voulons bien ne pas jeter l'opprobre sur une religion et ni sur ses fidèles, mais encore faudrait-il que ces fidèles, à un moment aussi dramatique que celui que nous vivons, et ils ont été nombreux ces événements, eh bien, prennent la décision de se dissocier de ce type de comportement. Or, j'ai beau chercher, et à moins que je n'ai pas eu suffisamment d'attention, je n'ai pas trouvé, je ne parle même pas des attentats de ces jeux d'hier, tout simplement parce que c'est un peu tôt pour en tirer des conclusions, mais depuis le 11 septembre, j'attends en vain, j'ai même écrit des articles à ce sujet, j'attends en vain des musulmans modérés qu'ils se manifestent et qu'ils disent que cet islam-là, cette façon de pratiquer l'islam par la violence, par la bombe, par le massacre, n'est pas digne de l'islam. Alors, bien ici ou là, un philosophe qui explique que la violence n'est pas dans l'islam, philosophes musulmans, mais il n'empêche qu'ils ne vont pas jusqu'à se dissocier. Or, nous, dans le monde chrétien, lorsqu'il y a tel ou tel acte violent ou barbare, personne n'hésite à dire qu'il se dissocie évidemment de ceux qui éventuellement se réclameraient de telle ou telle tendance chrétienne. Donc, moi je pense que le vrai problème réside à ce niveau-là, et pour l'instant, nous n'en sommes pas arrivés au stade où il faudrait en être.
Est-ce que cela peut servir de, je veux pas dire de leçon, ou enfin d'exemple pour, parce que jusqu'à tout récemment, Paris a été victime, si je peux dire victime, là, de menaces terroristes, Monsieur Eichmann. Est-ce que cela peut justement essayer de trouver des stratégies pour que ce soit la France, pour que ce soit les États-Unis, parce que là, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces gens-là à Bombay était extrêmement bien organisé, même si, en plus, on parle de que ce sont des jeunes hommes d'à peu près 16-17 ans ou quelque chose comme ça. Ça donne froid dans le dos. Extrêmement bien organisé, là.
Ils étaient effectivement et apparemment très bien organisés, totalement déterminés. On en saura un peu plus quand les autorités indiennes auront pu démêler un peu toute cette histoire. Enfin, ce qu'il y a de certain, c'est que la menace terroriste, non seulement n'a pas disparu, mais elle se renforce avec la mondialisation, car, comme le disait un observateur sur une télévision française hier soir, s'il y avait eu un attentat qui avait frappé uniquement des Indiens, eh bien, il est vraisemblable que dans la presse occidentale, ça aurait fait quelques lignes, voire un peu plus, et puis qu'on n'en aurait plus parlé. À partir du moment où ça frappe des Occidentaux, et qu'en outre, l'action est spectaculaire, eh bien, toutes les télévisions du monde se sont évidemment penchées sur ces événements, en ont rendu compte, et c'est tout simplement la résurgence d'une vieille tradition, d'un vieil adage de la presse qui s'appelle le mort kilométrique. Je ne sais pas si vous connaissez cet adage.
Non, non.
C'est le mort kilométrique, c'est très simple. C'est, tous les patrons de presse savent ça. Un mort à un kilomètre est plus important que 1000 morts à 1000 kilomètres.
Oh!
Ah, oui, non, mais c'est un adage un peu cynique de la presse et un peu humoristique aussi, oui. mais qui trouve son application. Et alors, ça a changé, cet adage a changé avec la mondialisation de l'information.
Ah, d'accord.
Avant, encore faut-il y ajouter un autre ingrédient qui est la mise en cause et simplement le fait que soit victime des compatriotes. Alors, dans ce cas-là, les kilomètres disparaissent. Et vous avez un adage nouveau. Mais d'une façon générale, quand vous n'avez pas de compatriotes impliqués dans une affaire ou victimes d'une affaire comme celle-ci, et que cette affaire se déroule très loin, il est vraisemblable que l'émotion est pratiquement très vite effacée.
Monsieur Eichmann,
donc voilà, oui. Là, nous sommes effectivement dans ce cas de figure.
Oui.
Il y avait d'abord, ils ont voulu s'attaquer à des Occidentaux. On raconte qu'ils se sont ils ont demandé aux gens leur passeport, que certains ont même dit non, moi je suis italien, je ne suis ni américain ni anglais, etc. Donc c'était une action qui était bien ciblée.
Ah, d'accord.
Et ouais. Effectivement, ils ont manifestement voulu faire un acte contre l'Occident. Et ceux qui en Occident s'imaginent que c'est en étant gentil avec ceux qui nous attaquent violemment qu'on obtiendra des résultats, eh bien cela se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au trognon.
On parle que, là, dans le fond, aujourd'hui, il y a environ, je crois, c'est 15 employés d'Air France et 20 Français libérés. Monsieur Eichmann, enfin...
Il y avait un équipage d'Air France qui se trouvait dans un des hôtels attaqués. On a eu en début de matinée chez nous, donc c'est-à-dire encore en pleine nuit chez vous, des informations indiquant qu'ils allaient être libérés ou qu'ils l'étaient. Et ça semble être confirmé maintenant. Donc, en tant que Français, évidemment, et en tant qu'être humain, on ne peut que se réjouir de leur libération.
Oui.
Mais vous imaginez ce qu'ont dû vivre tous ces gens qui voyaient des terroristes tirer de partout, tirer sur tout ce qui bouge. C'est absolument effrayant. Ce sont des impressions qui ne s'effaceront jamais de leur mémoire.
Tout à fait, exactement. Jusqu'à maintenant, on parle de 130 personnes qui ont péri et plus de 300 individus blessés.
Oui, ce sont les chiffres qu'on donne, effectivement. Ouais. Et ce sont des chiffres, évidemment, très spectaculaires. Mais les observateurs rappellent qu'il y a eu en Inde des attentats dans les gares, dans les trains, qui ont fait des centaines de morts aussi. Et c'est depuis plusieurs années, les attentats surviennent trois, quatre fois par an. C'est un contexte, vous connaissez bien sûr le contexte du conflit indo-pakistanais.
Oui, oui, oui.
Et surtout de l'origine du Pakistan. L'Inde était auparavant une entité, puis en 1947, les Anglais donc ont quitté cette partie de leur empire, et ils l'ont séparé en deux, puisque les musulmans et les indiens ne pouvaient pas vivre ensemble, et tout simplement parce que les musulmans ne supportaient pas les indiens et inversement, et donc on a créé le Pakistan de manière artificielle, et il y a eu 15 millions de personnes qui sont passées d'un pays à l'autre, qui sont allées vers le Pakistan. Et puis il y a eu, je crois, 1,5 million de morts à l'occasion de ce conflit. Donc tout ceci, c'est un passé très sanglant, très violent, et qui est attisé encore plus par l'islamisme qui actuellement progresse dans le monde. Mais c'est également un effet du rapprochement qui vient de se faire, ouais, entre le nouveau gouvernement pakistanais et le gouvernement indien. Donc les terroristes avaient certainement pour objectif de créer une situation de
le
conflit
chaos
à nouveau.
Ouais. Voilà. Ouais, exactement, le chaos.
Oui.
Le but, c'est de créer le chaos. Et
voilà, c'est ça, exactement. Et notamment d'empêcher tout rapprochement indo-pakistanais, d'autant plus que dans le même temps, les forces pakistanaises se sont un peu réduites au Cachemire, sur la frontière du Cachemire, et se sont reportées vers la frontière de l'Afghanistan. Enfin, tout ceci s'inscrit quand même, qu'on le veuille ou non, dans la bataille contre les talibans, et bon, on est ramené forcément aux attentats du 11 septembre, car la bataille du 11 septembre, c'est tout simplement la continuation du 11 septembre, c'est l'Afghanistan, et actuellement, les forces des talibans ont repris du poil de la bête, et tout ceci s'inscrit dans un contexte qui devient géostratégique.
C'est ce que vous avez comme information, c'est vrai que l'Afghanistan, les talibans ont réussi à reprendre un peu à regagner un peu de terrain?
Ah oui, oui, ils en regagnent même très nettement, c'est-à-dire que les Occidentaux vont être obligés de se renforcer très fortement, parce que ils n'arrivent pas, jusqu'à présent, les Occidentaux n'arrivent pas à maîtriser le terrain suffisamment. Et le général Petraeus, qui vient de prendre le commandement, et c'est lui qui, enfin, il commande en commandant suprême à la fois l'Irak et l'Afghanistan, mais d'accord, il va évidemment s'occuper très précisément de l'Afghanistan. Et je crois me souvenir qu'il a rencontré le nouveau président élu américain, Monsieur Obama. Et le général Petraeus a bien réussi en Irak. Il a réussi à limiter pas mal les actions terroristes, et surtout il a réussi à couper l'herbe sous le pied d'un certain nombre de sunnites, de musulmans sunnites, parce qu'il a tout simplement réengagé une bonne partie des soldats de Saddam Hussein dans une force qui appartient à l'armée irakienne.
Oui.
Et actuellement, ça a beaucoup diminué le nombre des attentats sunnites. Et ça, c'est d'ailleurs une erreur qu'avaient commise les Américains au départ, et notamment Rumsfeld, qui avait indiqué que une fois qu'il serait en Afghanistan, ben, comme il disait, on y va, on renverse le régime et on rentre à la maison. Or, c'était une vision assez naïve, parce que finalement, ils ont mis un nombre d'hommes insuffisant. Il y avait à peu près 100 000 hommes, 120 000 hommes. Bon, on a augmenté récemment le nombre de soldats américains, mais ils auraient dû en fait doubler ou tripler cet effectif pour rétablir la paix, pour établir la paix, et ensuite ils auraient pu opérer des retraits. À ce moment-là, il faut dire à la naïveté américaine qui se figure qu'il suffit d'apporter la démocratie à un peuple pour qu'elle existe.
Alors,
bon, ça n'est pas comme ça que ça marche. Hélas, ce serait bien si c'était ça.
Exactement.
Si c'était le cas.
Exactement. Vous venez de dire le mot Amérique, et il y a un auditeur qui nous pose cette question. Alter Ego Cap me dit: pensez-vous, Monsieur Reichmann, que l'élection d'Obama pourrait être un signe de l'affaiblissement de l'Amérique?
Eh bien, voyez-vous, contrairement à ce que certains ont pu penser, je ne le crois pas. Je n'ai pas personnellement été favorable à la candidature d'Obama. Je pensais que McCain était meilleur pour l'Amérique.
Oui.
Mais je pense qu'Obama n'a pas la possibilité de se montrer faible. Car s'il se montrait faible, à ce moment-là, il serait très vite placé dans une situation très difficile. Il doit montrer, et il l'a dit d'ailleurs pendant sa campagne, qu'il était américain. Et ça n'est pas quelqu'un qui, parce qu'il est de couleur ou métisse, ne serait pas entièrement américain. Il est américain, il doit faire face aux problèmes que les Américains ont. Donc on va voir très prochainement, puisque maintenant son investiture est proche, il y a un mois et demi à peu près avant qu'il ne soit investi, nous allons voir très vite quels seront ses choix. En tout cas, sur le plan économique, vous avez observé qu'il fait des choix qui jusqu'à présent se révèlent quand même assez judicieux, puisqu'il a désigné comme futur ministre des Finances, secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, qui est le président de la Réserve fédérale de New York et qui est un garçon en pleine qualité, qui a été d'ailleurs aux affaires depuis longtemps, puisqu'il était le numéro 2 pratiquement de la Réserve fédérale. Il a nommé comme superviseur de ses conseillers l'ancien président du Fonds monétaire international, Paul Volcker, qui jouit d'une réputation très solide. Et d'une façon générale, il a également engagé Larry Summers, qui était l'ancien secrétaire au Trésor de Clinton. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire des miracles, mais ça veut dire en tout cas que jusqu'à présent, il a engagé des gens compétents. Bon, on va voir si cette compétence les amènera à des décisions correctes. Mais jusqu'à présent, on peut dire qu'Obama n'a pas commis d'erreurs magistrales.
Non, il a nommé, c'est vrai, on me dit qu'il a nommé dans le fond les anciens de l'administration Clinton, pratiquement.
Exactement, oui, c'est ce qu'il a fait. Mais ce qui démontre d'ailleurs que finalement le personnel politique n'est pas très diversifié aux États-Unis. Mais vous savez, c'est vrai dans tous les pays, il y a un certain nombre de personnes, une dizaine, deux ou trois dizaines parfois, de personnes qui dans tel et tel domaine sont aux affaires tout le temps. Si vous prenez l'exemple français, vous avez dans le domaine social dont je m'occupe tout particulièrement une trentaine de technocrates, un peu moins même peut-être, qui sont là depuis plus de 30 ans et qui ont résisté à tous les changements de gouvernement et tous les changements de majorité. Moi, quand je me bats pour la fin du monopole de la sécurité sociale, j'ai toujours en face de moi les mêmes. Alors ils changent parfois un peu de fonction, mais ce sont les mêmes qui tournent. Et aux États-Unis, on s'aperçoit qu'effectivement, les grandes compétences en matière économique et financière ne sont pas si nombreuses que cela. Et donc, le président, un président quel qu'il soit, ne peut pas non plus piocher, sauf s'il a préparé avant une équipe, mais il ne peut pas piocher dans n'importe quel vivier. Il lui faut prendre les gens compétents. Et de ce point de vue-là, on peut quand même considérer, c'est bien pour l'ensemble des économies mondiales, parce que si les États-Unis déraillent, et manifestement ils ont déjà déraillé pas mal, oui, s'ils continuaient à dérailler, ce serait une catastrophe pour tout le monde. Donc voilà, et pour terminer sur la réponse à votre question, je pense qu'Obama ne peut pas se permettre de faire preuve de faiblesse. D'ailleurs, il a annoncé qu'en Afghanistan, il serait très ferme.
On rajoute ceci, sauf que l'administration Clinton est marquée par des erreurs énormes. Exemple, approche naïve de la politique au Moyen-Orient, avec des conséquences catastrophiques, faiblesse vis-à-vis l'Iran, et choix économique qu'on se paye aujourd'hui. C'est ce qu'on me répond là sur...
C'est exact. Les auditeurs qui vous font ces remarques ont parfaitement raison. Seulement le problème, c'est que il n'avait personne d'autre sous la main. Bon, cela dit, ils ont fait des erreurs, mais les individus qui les ont faites collectivement. Donc, on ne peut pas individuellement leur reprocher telle et telle chose. Il est vrai que, en ce qui concerne la politique vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis du Proche-Orient, et surtout vis-à-vis de ce qui actuellement a emporté l'économie mondiale, c'est-à-dire l'affaire des prêts subprimes, eh bien, c'est l'administration Clinton qui a fait les énormes erreurs. Alors évidemment, l'administration Bush aurait pu les rectifier, parce qu'ils sont quand même restés près de 8 ans maintenant. Donc, mais en attendant, ça a arrangé un peu tout le monde, vous comprenez. L'argent dans la réserve fédérale inondée d'argent grâce à des taux d'intérêt très bas l'ensemble de l'économie. Les Américains, finalement, les observateurs l'ont dit, n'ont pas vécu tellement de leur travail, mais ils ont vécu à crédit. Et c'est ça qui est en train d'exploser actuellement, parce que tous les crédits, il faut le savoir, finissent un jour, lorsqu'ils sont excessifs, par créer une bulle d'abord, et ensuite la bulle finit toujours par éclater. Donc là, on avait une bulle qui était gigantesque, qui a éclaté, qui va conduire les Américains à vivre différemment, et il va falloir du temps pour éponger tous ces crédits qui finalement ne valent plus rien. Car les gens se croyaient riches parce qu'ils détenaient telle ou telle part de créances qui étaient dans ces véhicules qui mêlaient toutes sortes de créances et qui se vendaient à prix d'or, que toutes les banques ont acheté d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce qui valait une certaine somme ne vaut plus rien. Donc c'est ce qu'on appelle les actifs toxiques. Et les actifs toxiques sont si nombreux que vous avez vu comme nous, qu'il a fallu revenir au secours de l'assureur américain AIG.
Oui.
Il a fallu sauver in extremis Citicorp.
Ouais.
Et tout ça, et rien ne nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas encore des milliards et des dizaines de milliards d'actifs toxiques en circulation. Et nous ne sommes pas forcément au bout de nos surprises. Et d'ailleurs, c'est très important, j'aimerais attirer l'attention de nos auditeurs sur cet aspect des choses.
Oui.
Nous sommes dans une double crise. Nous sommes dans une crise financière et dans une crise de confiance. Et je suis convaincu que nous n'arriverons pas à remonter la pente tant que la confiance ne sera pas revenue. Or, pour que la confiance revienne, il faut deux choses. La première, c'est qu'on ne découvre pas tous les jours de nouvelles catastrophes, parce que là, ça vous met dans un état de nerfs épouvantable et vous vous dites, bon, ça y est, ça continue, la catastrophe continue.
Oui.
Et la deuxième chose, c'est qu'il faut également que un choc de confiance soit créé. En particulier, il faut que les gens aient confiance dans les dirigeants d'un pays, puis qu'ils aient confiance dans la politique suivie. Mais j'aimerais vous faire aussi cette remarque.
Oui.
Qui me paraît de simple bon sens.
Je vous écoute. On jugera après. Non.
on nous dit, voilà, il faut avoir confiance, ça va repartir, etc. Alors, prenez le cas d'un citoyen français, je vais vous donner le chiffre parce que je le connais, qui gagne, c'est pratiquement le salaire moyen, qui gagne 1500 euros par mois. Et il voit que les États sont obligés de mettre des centaines de milliards d'euros sur le marché pour éponger toutes les pertes, il se dit, et moi on me demande d'avoir confiance avec mes 1500 euros par mois, alors qu'avec des milliards on aboutit absolument à rien pour l'instant. Donc la personne qui raisonne comme ça, et c'est je crois l'immense majorité des gens, se dit, dans l'instant c'est comme quand il y a une attaque terroriste, il faut se cacher quoi. Et c'est ce qu'ils font, ils se mettent sous leur oreiller, ils attendent que la catastrophe se déroule et se termine, et c'est seulement une fois qu'elle sera réellement terminée qu'on pourra se remettre au travail et essayer de retrouver un peu de confiance.
Autre question, je ne sais pas si Laurent Alagnaud, tu vas être d'accord avec celle-ci de la part d'un auditeur, Monsieur Reichmann. Pensez-vous que l'Iran est derrière les attentats de Bombay? Ça, je pense que c'est un peu pousser le bouchon, on croit.
Bon, ça m'étonnerait parce l'Iran n'y a pas intérêt. Il offrirait un excellent prétexte à ceux qui veulent l'attaquer à titre préventif pour l'empêcher de se doter de l'arme atomique. Donc je ne pense pas que l'Iran... Enfin, il faut toujours être prudent dans ce genre de suppositions parce que tout est toujours possible. Mais en tout cas, il y a quand même un point qui est essentiel, c'est que les États sont... Dans le terrorisme, c'est presque toujours des États qui sont derrière. Il est rare que des terroristes puissent agir sans au moins la complicité de certains États. Or, si l'Iran venait à être découvert comme complice de ces terroristes, il sait très bien ce qu'il risquerait.
Oui.
Une attaque préventive.
Et si je peux me permettre.
Oui, vas-y, Laurent.
Si je peux me permettre, Monsieur Reichmann, bonjour.
Oui. Bonjour.
Voilà la question de l'Iran derrière les attentats de Bombay elle ne se pose pas parce que l'Iran est chiite et on sait que les chiites et les sunnites ne s'aiment pas beaucoup.
Ah oui, oui,
donc
bien
sûr. Vrai que si l'Iran était derrière ça, ce serait très 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 étonnant.
Ce serait très étonnant à tous égards et effectivement vous avez parfaitement raison de souligner le caractère chiite de l'Iran qui d'ailleurs est un des éléments majeurs du problème irakien aussi puisque l'Irak, comme vous le savez, est un pays où les chiites sont majoritaires mais ils étaient dominés politiquement par les sunnites. Le régime de Saddam Hussein était un régime fondé sur le sunnisme. Et actuellement tout le problème qui est posé c'est justement celui des relations entre les chiites et les sunnites et notamment tout à l'heure au général Petraeus qui a parfaitement compris qu'il fallait réintégrer les sunnites dans le jeu et notamment il a réengagé à peu près 90 000 anciens soldats dans une force qui fait partie de l'armée irakienne et qui est chargée aussi de rétablir l'ordre.
Et surtout le général Petraeus est attaché à nouer des accords avec les tribus sunnites.
Oui.
Ça aussi c'était un grand élément de sa politique.
Oui. Il a agi avec beaucoup d'intelligence et il est nourri de la pensée d'un militaire français qui s'appelle David Galoula qui a écrit un ouvrage que le général Petraeus a préfacé et qui fait grand cas évidemment de ce qui doit être fait sur le terrain pour ne pas avoir en permanence des populations hostiles. Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Occidentaux sont en grande difficulté actuellement en Afghanistan, car s'ils ont militairement réussi à faire des choses efficaces, en revanche, la population continue de soutenir plus ou moins les talibans, et donc tant que la population ne se sera pas séparée des talibans, en tout cas au moins ne leur fera plus bon accueil, nous aurons de grosses difficultés. Donc on va voir ce que le général Petraeus va pouvoir faire dans ce sens. Ça ne va pas être simple de toute façon, parce que vous savez que le nombre de pays qui se sont cassés les dents en Afghanistan sont nombreux, ces pays.
Ben, juste le Canada, Monsieur Reichmann, je peux vous en donner un excellent exemple. Bon nombre de Canadiens qui y sont décédés, et aussi bon nombre sont revenus, bien sûr, vivants, heureusement, en faisant savoir que c'était extrêmement difficile de contrer les talibans, parce que ils sont chez eux, ils connaissent.
Voilà,
c'est un peu comme la guerre du Vietnam.
C'est la fameuse théorie du poisson dans l'eau qui avait beaucoup impressionné les militaires français, parce que nous avons évidemment été au Vietnam avant les Américains.
Oui.
Et cette théorie d'ailleurs a été mise plus ou moins en pratique en Algérie, avec un succès assez modeste finalement, même si sur le terrain l'armée française avait fini par gagner la guerre. Mais bien entendu, il y avait un autre problème qui était un problème politique. Mais enfin, il est évident que la stratégie du poisson dans l'eau, qui est celle de tous les peuples qui sont attaqués ou qui sont en guerre et qui font face à un ennemi plus fort que lui, c'est une théorie qui leur permet d'être beaucoup plus forts, alors qu'ils sont inférieurs en dotation d'armes, ils sont inférieurs parfois même en nombre de combattants, mais le fait qu'ils soient bien insérés dans la population leur permet d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Et actuellement, c'est le problème qui se pose en Afghanistan. C'est la raison pour laquelle le général Petraeus, qui est effectivement très 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 soucieux de ce genre de problème, va s'y attaquer, et j'espère qu'il réussira.
Oui, il y a aussi une petite nuance sur le soutien supposé de la population aux talibans.
Oui.
C'est que les talibans font comme ce qui s'est passé en Algérie et en Indochine, c'est-à-dire qu'ils soumettent la population par la terreur.
Moi, j'ai vu récemment,
j'ai vu l'armée française publie des cahiers, les cahiers du RETEX, c'est-à-dire les cahiers de retour d'expérience, et c'était très bien décrit ce processus-là, notamment dans le sud de l'Afghanistan.
Oui, c'est-à-dire que les troupes, les guérillas sont toujours obligées de faire ces deux choses. Il faut d'une part qu'elles soient à l'aise au sein de la population, qu'elles s'y fondent, et d'autre part qu'elles amènent à leur merci tous ceux qui voudraient se rebeller et qui aimeraient mieux que les Occidentaux, en l'occurrence, l'emportent. Donc il y a toujours ces deux aspects, effectivement. Les talibans en usent comme d'autres guérillas l'ont fait, mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont en pays pachtoun, donc c'est leur communauté, donc en fait c'est ça la raison profonde. Donc ce qu'il faut, c'est séparer les pachtouns les uns des autres, quoi, en quelque sorte. Ça c'est pas si simple.
Et puis il y a une chose aussi qu'on peut noter, c'est qu'ils sont très forts au point de vue de la communication.
C'est vrai,
c'est savent, étrange, ça, Laurent. Je comprends pas pourquoi qu'ils sont aussi. Tu parles d'être forts. Je comprends pas pourquoi ils le sont, justement. Il me semble que c'est pas logique. Sûrement un soutien financier quelconque à quelque part.
Oh, ils sont surtout habiles. Vous savez, actuellement, la communication est une science qui s'est répandue partout et qui s'est d'autant plus répandue qu'elle est maniée par des gens plus faibles que ceux auxquels ils sont affrontés. Par exemple, les attaques, pour y revenir, sont une formidable opération de communication.
Oui.
On avait un peu abordé le sujet tout à l'heure. Il est évident que si vous voyez, là, on est obligé de parler de façon un peu cynique, mais naturellement, on n'éprouve pas le moindre cynisme à l'égard de ces événements dramatiques, mais si les terroristes qui ont attaqué Bombay avaient dû s'offrir les heures de télévision, de radio et les titres de journaux qu'ils ont eus, il aurait fallu une extraordinaire fortune. Or là, ça ne leur a coûté finalement que quelques vies humaines de leur côté et pas mal de vies humaines et de blessés de l'autre. Donc vous voyez, c'est le prix du sang, et le prix du sang, c'est le prix de la communication. Et hélas, Alors évidemment, personne ne pourrait accepter l'idée qu'on n'en parle pas. Mais au fond, si on n'en parlait pas, ce serait peut-être, au fond, le meilleur échec que pourraient éprouver les terroristes.
Mais c'est
impossible.
Il est clair qu'il y a un soutien financier quelconque parce que les attaques qui ont été faites à Bombay, parce qu'on parle l'hôtel Taj Mahal, on parle de l'hôtel Trident, on parle de plusieurs, même d'un centre financier. Écoutez, c'est tout ça en simultané, Monsieur Eichmann. Et là, on parle que aussi, ce n'est pas le Pakistan, mais ce sont probablement des Pakistanais qui auraient fait le coup, quoi.
Là, il va falloir démêler un peu d'où viennent les choses, mais vous savez, il n'est pas besoin d'avoir des fortunes extraordinaires pour faire ce genre d'action. Bon, il faut évidemment
c'est de l'organisation. Des gens entraînés. C'est une très bonne organisation. Je sais pas, Laurent, je crois que toi
c'est une très bonne organisation, mais le fait d'avoir un bateau, d'après ce que l'on sait jusqu'à présent, ce que l'on suppose, un bateau de gros tonnage qui aurait amené les terroristes à proximité de la côte indienne, où ils auraient abordé par le biais d'un canot rapide, ça ne nécessite pas des fortunes. Ça nécessite certes de l'argent, mais certainement pas des fortunes. D'ailleurs, il y a eu récemment, enfin, c'est un film ancien, on a repassé sur les écrans, un film qui montrer les anciens des troupes britanniques, tous plus ou moins à la retraite, qui sont emmenés dans une expédition justement destinée à contrer les forces ennemies en Asie. Et c'était un excellent film d'ailleurs, où ils louent un vieux rafio pour ne pas attirer l'attention des adversaires. Ce sont des Allemands en fait, c'est contre les Allemands que les Anglais se battaient, parce que les Allemands couler des bateaux par le biais de leurs sous-marins et de quelques bateaux de surface qui les guidaient, et donc ils ont voulu aller détruire justement ces bateaux. Et ce film, j'ai beaucoup pensé à ce film lorsque j'ai vu ces événements de Bombay se dérouler. Il semble bien qu'ils aient adopté la même méthode. C'est là qu'on voit que le cinéma parfois a autant d'imagination que la réalité, et parfois plus.
Exactement. On me donne cette information. On accuse les services secrets pakistanais de soutenir les islamistes ayant posé des bombes en Inde. Ça commence à être un peu un film, là, comme vous venez de le mentionner.
Oui, mais ça, c'est assez classique. Les services secrets pakistanais ont une responsabilité très importante. Et c'est un État dans l'État. Et donc, dans toutes ces affaires, il est évident qu'ils jouent un rôle, mais on ne sait pas exactement si c'est tous les services secrets ou une partie d'entre eux. On sait que le nouveau président pakistanais veut les tenir maintenant en lisière, et qu'il y a probablement un renversement qui va se produire, notamment à la frontière afghane, parce que vous savez que c'est à ce niveau-là que les talibans et probablement Ben Laden aussi se sont réfugiés, c'est-à-dire juste de l'autre côté de la frontière afghane, mais en territoire pakistanais. Et on a souvent indiqué que les services secrets pakistanais avaient pour eux, comme on dit, les yeux de chimène. Alors effectivement, si la politique devait changer, il semble bien que les États-Unis est obtenu du nouveau président pakistanais des engagements visant à ne plus protéger les talibans sur la partie qui se trouve la partie occidentale du territoire pakistanais et orientale donc du territoire afghan. À ce moment-là, il est possible que les services secrets pakistanais, ou en tout cas une partie d'entre eux, on appelle ça l'ISS, aient décidé d'augmenter la tension par le biais justement d'attentats. Mais ça, ce sont des choses auxquelles on ne pourra accéder que dans la mesure où l'enquête progressera, parce que, vous savez, la plupart des enquêtes finissent par démêler à peu près qui sont les responsables. Donc ça, on le saura, à mon avis.
On nous parle...
Les services secrets pakistanais, c'est l'ISI.
L'ISI.
C'est un lapsus de ma part, c'est l'ISI, voilà, exactement.
Inter-Service Intelligence, Inter-Service Intelligence pour ce qui est des services secrets pakistanais.
Exactement, oui.
150 millions de musulmans en Inde, ça fait quand même un beau réservoir à terroristes. Vas-y, Laurent.
Oui, j'aurais une question à poser à M. Reichmann. Les services secrets américains ont sorti un rapport la semaine dernière qui prévoit l'évolution du monde dans les 20 prochaines années. Et donc, ils abordent la question du terrorisme. Et selon les analyses, ils disent que que le terrorisme s'amoindrira s'il y a des progrès économiques notables, notamment dans la région du Moyen-Orient. Alors moi ça m'étonne un petit peu parce que le terrorisme n'est pas lié, enfin pour moi, hein, n'est pas lié à des facteurs économiques, mais le terrorisme vise à obtenir un gain politique et religieux dans le cas de l'islam. Alors je voudrais bien savoir le sentiment de M. Reichmann à ce sujet.
Je pense quand même que les Américains n'ont pas tort en disant cela, mais bien sûr ça ne suffira pas, puisqu'il faut à la fois combattre les terroristes sur ce qu'ils veulent faire, mais en même temps, si la situation économique s'améliore, le vivier du terrorisme diminue, parce que les gens ne se livrent au terrorisme et les troupes ne sont recrutées qu'en fonction du caractère sans espoir de leur situation. Il est évident que quelqu'un qui va se faire tuer dans un attentat suicide n'est pas quelqu'un qui a un grand espoir dans la vie, même si on peut évidemment ajouter le caractère fanatique éventuel de ces personnes. Donc je pense que les deux doivent être mis en œuvre, et à ce rapport on pourrait peut-être ajouter que ça ne va pas être simple, parce que arriver à faire entrer dans un progrès économique des pays qui d'abord n'ont pas une culture économique qui permette le développement d'une économie de type occidental, c'est-à-dire à croissance assez forte, et d'autre part des populations qui augmentent en nombre de manière très spectaculaire, ça n'est pas simple du tout. Mais sur le fond, ouais, je suis assez d'accord, à condition de ne jamais oublier l'élément du fanatisme. Mais le fanatisme ne peut pas non plus se développer s'il n'a pas de recrutement.
Ouais, les Américains, oui, par contre, les analyses américaines se trompent. Ils ne comprennent absolument rien à l'islam. Et la majeure partie des terroristes du 11 septembre, par exemple, venaient de milieux aisés. Ça, c'est quand même vrai, ça.
Exactement,
ça, c'est
oui.
Vrai. Oui, c'est vrai, mais là, c'est plutôt la part du fanatisme islamiste que la part de milieux défavorisés, puisqu'en effet, la plupart de ces terroristes étaient des gens qui avaient une insertion dans la société, ce qui leur a d'ailleurs permis de passer assez inaperçu. Mais il n'empêche que, de façon plus globale, si vous voulez, pour recruter deux douzaines de terroristes, on a un vivier suffisant. Mais pour faire régner régulièrement une situation d'insécurité, il ne suffit pas d'avoir deux douzaines de personnes, il faut avoir des gens partout. Et si les gens sont dans une situation économique favorable, ou en tout cas qu'ils ont l'espoir d'une amélioration, ils sont moins tentés de se livrer à ce genre d'exercice, et surtout moins tentés de risquer leur vie, voire de la sacrifier à coup sûr, puisque les attentats à suicide sont évidemment des attentats qui réussissent presque toujours.
Ouais, mais il y a un autre phénomène aussi qui a été décrit par des services de renseignement, c'est qu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup, enfin de plus en plus d'Occidentaux qui s'engageaient sous la bannière de l'islam radical, et toujours selon ces rapports de renseignement, il y en aurait qui seraient en ce moment dans les camps d'entraînement à la frontière afghano-pakistanaise.
Oui, on le dit, jusqu'à présent, on n'a pas encore arrêté beaucoup. Ça peut venir, me direz-vous, mais on n'a pas arrêté beaucoup de terroristes ou identifié beaucoup de terroristes qui seraient d'origine occidentale. Il y en a à coup sûr, il y a des camps
d'entraînement.
Hein. Pardon ?
Il y en a déjà eu en Australie, même des Américains, des Français.
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais enfin, ça n'a pas été jusqu'à présent très significatif, mais ça peut le devenir, vous avez raison, il est tout à fait possible. Mais je crois beaucoup plus que le recrutement de ce genre de terroristes se fait dans les milieux qui sont originaires donc de civilisations islamistes ou musulmanes, en particulier dans les attentats des années 95 en France. Il est évident que la communauté, un certain nombre de ces terroristes étaient issus de la communauté musulmane. Mais pour autant, ceux qui sont au contraire, car il y a des conversions, vous avez raison, il y a des conversions même relativement nombreuses d'Occidentaux qui convertissent donc à l'islam, ceux-là, jusqu'à présent, s'ils ont pu ici ou là être repérés comme terroristes, ne sont quand même pas la majorité des terroristes.
Ben, on me donne Zacharias Moussaoui, par exemple.
Oui, on l'appelait toujours, la presse française l'appelait le français Zacharias Moussaoui.
Oui.
Alors, certes, il était français de papier, comme on dit, mais il ne s'est jamais réclamé de quoi que ce soit de français. Enfin, je veux dire, ça n'était pas quelqu'un qui passait son temps à défendre la France. il était en réalité essentiellement motivé, si tant est que son état mental ait été normal, parce que là encore, on peut avoir quelques doutes, mais enfin toujours est-il que c'est quelqu'un qui était d'origine algérienne, je crois, et donc musulman.
Marocaine. Il était marocain, oui.
Marocain, d'accord. Et donc, voilà, ce garçon a tenu des propos d'un fanatisme tel que certains ont même donc mis en doute son état mental.
Peut-être un dernier truc très léger en terminant, Monsieur Reichmann. Même si 1% des musulmans étaient des fous furieux, ça en ferait quand même, ça ferait quand même 150 000 individus musulmans en Inde et 15 000 en France, pour juste à titre de petite statistique superflue comme ça, là.
On peut évidemment toujours faire des statistiques, mais enfin. Disons que le nombre de fanatiques n'est pas facile à cerner, parce que le grand problème dans ce genre d'affaires, c'est ce qu'on appelle le passage à l'acte. Alors, il peut y avoir, moi ce qui m'inquiète le plus, voyez-vous, c'est plutôt les manifestations de sympathie que le nombre de terroristes à recruter, parce que on arrive toujours à en trouver. Mais ce qui est grave, c'est que le 11 septembre ait donné lieu dans certains quartiers de Paris et ailleurs à des applaudissements. Ça, c'est très très grave. Alors ceux qui nous disent que la communauté musulmane est finalement, désavoue en quelque sorte et n'est pas d'accord avec le terrorisme, aurait dû aller faire un tour dans ces quartiers ou dans ces zones et constater qu'en réalité ces attentats ont, de la part d'une partie non négligeable des populations musulmanes en France et ailleurs dans le monde aussi, on a décrit ce genre de phénomène, fait l'objet d'une approbation et même d'un enthousiasme parfois. Et c'est ça qui est très inquiétant, parce que ceux qui sont favorables à l'intégration, et ils sont, c'est eux qui tiennent le haut du pavé médiatique, ne nous disent jamais si cette intégration doit aussi se traduire par une adéquation avec ce que fait leur pays d'adoption. Or, regardez ce qui s'est passé avec la Marseillaise qui est sifflée. Qui siffle la Marseillaise ?
Exact.
Ce sont des gens d'origine maghrébine. Bon, pourquoi le font-ils ? On s'est perdu en conjecture sur les raisons. Moi, je constate simplement que ces gens détestent la France. Bon, ils le manifestent à leur façon. Moi, je pose aux intégrationnistes la question suivante. Est-ce que vous considérez que des gens qui viennent siffler le pays qui les a accueillis, qui l'hymne du pays qui les a accueillis, sont des gens qui sont convenablement intégrés? Je dis non, ils ne le sont pas. Alors je ne dis pas qu'ils ne s'intégreront jamais, mais je dis qu'actuellement, il faut quand même essayer d'ouvrir les yeux et de savoir quelle est la mentalité.
C'est subtil. Oui,
c'est subtil, c'est difficile.
C'est très subtil, exactement.
Nous sommes dans un domaine où ce qui prédomine, c'est l'angélisme. Nous avons en face de nous essayons d'être réalistes et modérés, mais nous avons en face de nous des gens qui font de l'angélisme. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Les
musulmans demandent quelque chose, c'est de s'intégrer, etc. Ça n'est pas forcément vrai.
C'est comme ici, nous, notre plat, si on veut, notre plat québécois, typique québécois, c'est la poutine. Mais c'est aucunement religieux. Vous venez ici et vous n'avez pas besoin de vous convertir à la poutine pour être un Québécois. Vous me comprenez, là, vous me suivez.
Alors, pouvez-vous me dire ce qu'il y a dans la poutine?
La poutine, ce sont des pommes de terre qu'on tranche en julienne, peu importe le type de grosseur. Là, c'est des frites et des French fries, M. Reichmann.
French fries, oui.
Exactement. Et on rajoute une sauce, soit une sauce barbecue ou encore une sauce brune avec quelques épices. Et puis on rajoute du fromage, un fromage en grains. Alors ça donne le mets qu'on appelle ici poutine. Alors
ça ressemble un petit peu à
l'image du président
fondue savoyarde.
Et pour ceux qui ont du cholestérol,
ça doit être très léger. Une fois que vous avez mangé une bonne poutine, vous êtes bon pour aller faire la sieste après.
Bon, écoutez, les nutritionnistes ici disent
beurre. Bon, voilà qui est bien. Écoutez, pour terminer sur une note un peu plus gaie, puisque vous me parlez de
juste avant, je vais terminer. Dans le fond, nous, notre plat, c'est la poutine. Et les musulmans ici, il y avait Saïd Jaziri qui nous avait écœuré au plus haut point. Et d'ailleurs, on l'a retourné chez lui en Tunisie, tellement qu'il nous a fait chier avec des accommodements raisonnables. Et il avait osé nous dire en pleine face, en plein visage, que, dans le fond, nous, les Québécois, hein? Il en mangeait, lui, de la poutine, OK? Il en mangeait de la poutine. Alors, je ramène cela à la subtilité de la Marseillaise que pour faire chier, excusez-moi, c'est aussi... j'ai le goût de les écœurer ce matin, là. De faire chier les Français en sifflant la Marseillaise, ça, c'est un manque de respect flagrant dont ils sont capables et dans une subtilité aussi pour ne pas non plus... se faire pointer du doigt par les hauts dirigeants, d'accord? Comme ça, ça passe, c'est un passe-partout et ça écœure, ça emmerde les Français, ça emmerde les contribuables français.
C'est destiné à ça, c'est un acte d'hostilité envers les Français. Alors certains disent, oui, c'est parce qu'ils réclament plus d'attention, plus ceci, plus cela. Bon, je veux bien tout comprendre, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'un pays ne peut pas accepter sans être indigné que des gens qui sont finalement qui ont été accueillis, qui sont actuellement l'objet quand même, qu'on le veuille ou non, de dépenses très importantes de la part des contribuables, puisqu'il faut vous savez que toute personne qui arrive dans un pays et qui n'a pas contribué à construire ce système coûte cher.
Oui.
C'est vrai pour tous les immigrés, mais encore faut-il que ceux qui se mettent au travail prennent leur part ensuite de la dépense. Et si pour toute action ils ont le sifflet l'insulte à l'égard de l'hymne du pays qui les accueille, bon, c'est effectivement une façon agressive de se comporter. Mais je voudrais terminer sur la poutine à propos du caractère diététique de ce mets. Vous savez que le corps médical a toujours pour souci de communiquer sur le bon comportement en matière diététique. Bon, par exemple, si un médecin vous dit ne mangez pas trop de poutine, ça ne veut pas dire que lui ne l'aime pas.
Non.
Et je me rappelle de cette interview vraiment psychédélique que j'avais entendue il y a quelques années. C'était pendant une période de grande chaleur en France, et comme toujours, les journalistes font ce qu'on appelle des marronniers, c'est-à-dire que quand il y a une grande chaleur, que buvez-vous, que faut-il boire? Donc, ils avaient interrogé, par cette grande chaleur, un médecin qui leur avait dit, écoutez, non, quand il fait chaud, il faut surtout boire des boissons chaudes, un thé à la menthe par exemple, ou quelque chose comme ça qui apaisera votre soif beaucoup mieux, car sinon vous risquez de boire et d'être toujours assoiffé. Et le journaliste a eu l'excellente idée de lui poser la question suivante. Et vous, docteur, que buvez-vous? Au moins un whisky bien fait avec des glaçons.
Oh mon Dieu.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Voilà, exactement.
Alors vive la poutine.
Oui, et ben moi je m'en vais me prendre un whisky avec des glaçons. Au revoir, monsieur Reichmann.
Alors, à votre santé, cher Ismaël.
Bon week-end.
À bientôt. J'attends toujours vos
entrevues, vous savez. Les MP3, exactement. C'est
moins d'ailleurs qui les attend que nos auditeurs qui, ne pouvant pas toujours se brancher sur Rockick, aiment bien en retrouver les MP3.
Tout à fait.
Alors à la semaine prochaine.
Oui, monsieur Reichmann.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Et bon whisky.
Mais oui, tout à fait, comme d'habitude.
Avec modération.
Avec modération. Au revoir. Au revoir, monsieur Reichmann.
Avec modération. Au revoir.
Hey, Claude Reichmann, c'est ça, les vendredis. Laurent? C'est ça, tous les vendredis, 6h pour les Français et non pas pour les Français, pour les Québécois, pardon, pour l'Amérique du Nord, et midi pour les Français. Que penses-tu, Laurent, de faire une petite pause, prendre une pause, s'arrêter et revenir?
Une pause whisky?
Ouais, une pause whisky. D'ailleurs,
allez,
combien de glaçons? Combien?
Deux.
Ah, d'accord. Et un once, deux onces?
Qu'est-ce que t'appelles une once?
Ah, ça fait combien, je le savais.
Oh, tu mets une dose, quoi.
Merde, putain de système métrique. J'ai le système métrique de chez vous, mais les enfants de parents nous ont élevés dans le système, vieux système métrique. Alors, moi, je suis toujours pris entre le nouveau système métrique et ancien. Une once, c'est pas compliqué. Ça doit donner à peu près, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut donner? Ah, une bouteille, s'il vous plaît. On va se calmer les nerfs. Saint-Jean qui me demande une bouteille. on se calme.
La bonne mesure, c'est pas plus haut que le bord.
Oh my God. Oui, exactement. Ça fait environ, je te dirais, en centilitres, parce que c'est comme ça que vous calculez probablement, si je ne me trompe pas.
Ou en doigts aussi. On dit un doigt de whisky, deux doigts de whisky.
Ouais, ben je te dirais un doigt de whisky. Ouais, exactement un doigt.
Alors mais en deux, alors c'est meilleur.
Ok, c'est bon. on s'arrête et on vient. Ben vous écoutez Wake Up le show. Laurent qui est là, Saint-Jean va s'ajouter et Caporal John, même chose aussi, s'ajoute dans moins de deux minutes. C'est parti.
Saviez-vous qu'Internet peut faire découvrir votre entreprise à travers le monde? Publicitaire de production audio, Rockit.com est votre solution. Montage, habillage, campagne de pub. Vous avez envie d'entendre ma superbe voix faire votre publicité? Écrivez à maximeturgeon@rockit.com. Résultat garanti.